messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler d'un livre en compagnie de l'autrice AYG Bleu. On en parle juste après le générique.
Regardez-moi, voyons.
On l'invite en tant qu'autrice, mais elle est également animatrice radio, elle est également illustre dans Aromathérapiste. Je ne sais pas si on prononce bien ce nom-là. Aurore, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc où tu es, puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps. Tu es invitée aujourd'hui dans la matinale pour nous parler d'un nouveau bouquin qui vient de sortir. Quels sont ton parcours et comment tu es arrivée un petit peu à l'écriture pour commencer ?
Bonjour Brian, merci de m'avoir invitée ce matin. Effectivement, ma dernière sortie s'appelle « Coup de poker ». Et avant ça, j'ai commencé l'écriture par de la fantasy. Donc avant d'écrire ce roman entre carnet de voyage et roman journalistique où j'ai suivi des amateurs de poker jusqu'à Las Vegas pour découvrir les aventures pokeristiques avec eux, découvrir l'adrénaline que ce jeu peut procurer quand on est dans la capitale mondiale du poker, eh bien j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai commencé par un univers plutôt empreint de magie, parce que c'est ce que j'aimais aussi lire et regarder au cinéma. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dirigée vers d'autres genres. J'ai écrit des contes pour enfants. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec une base de faits réels importante, puisque j'ai écrit 62 minutes, qui est la biographie d'une jeune femme de la région, qui a fait un arrêt cardiaque de 62 minutes. Et ça m'a donné très envie de continuer à écrire sur du réel.
Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu as eu plusieurs vies avant d'écrire aujourd'hui, hein, puisque tu as bossé chez Air France, tu as été aromathérapeute, tu fais de la radio, tu animes également des ateliers radio à destination des scolaires. C'était quoi ? C'était une passion ? Tu as aussi été bibliothécaire aux bibliothèques de Compiègne. C'était quoi ? C'était une passion, l'écriture ? Comment c'est venu sur cette première trilogie d'Heroic Fantasy ?
En fait, j'ai la chance d'avoir dans ma famille pas mal de personnes qui sont assez axées sur l'art et notamment la danse. J'ai un de mes cousins qui me dit un jour « Aurore, c'est quoi ton rêve dans la vie ?» Je lui dis « Ben écoute, mon rêve dans la vie, c'est d'écrire un livre. » Et là, il s'est arrêté de marcher, il m'a regardé, il m'a dit « Écrire un livre ?» Je lui dis « Bah ouais, genre, écrire un livre, c'est bien comme rêve, tu vois. » Il me dit « Mais c'est facile d'écrire un livre, tu te poses, tu prends une feuille, un crayon, puis t'écris un livre. » Et puis là, je me suis dit, en vrai, il n'a pas tout à fait tort. Bon, bah, c'est vrai, peut-être que mon rêve, en fait, il est accessible et je peux me lancer, en fait. Donc, j'ai fait ce qu'il a dit. Je me suis posée, j'ai réfléchi à une histoire. Au bout du compte, ça m'a quand même pris 10 ans de sortir mon premier roman. Donc, ce n'est pas si facile d'écrire un livre. Quand on part de zéro et qu'on a juste la passion, il y a de la structure à avoir. Il y a aussi un rythme à prendre dans l'écriture. Quand on écrit un poème, on peut peut-être l'écrire en quelques minutes. Quand on écrit un roman, il va falloir qu'on se souvienne de tous les détails de ce qu'on a fait avant pour que ça reste cohérent, pour qu'on puisse embarquer le lecteur avec nous. Donc il y a tout un tas aussi de techniques en plus de la mémoire à avoir. Et donc trouver son rythme et écrire régulièrement, c'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite et que j'ai pu faire non plus tout de suite. C'est pour ça que ça m'a pris du temps.
Oneida, c'est la première trilogie Heroic Fantasy médiévale que tu as écrit. Maintenant, il y a 3 tomes, Le Miroir porte, Les Liens du sang et Les Cités dispersées. Donc, il y a une version du tome 1 qui a été rééditée en version illustrée. Qui c'est qui a fait l'illustration de ce tome ?
Eh bien, je t'avoue que je les ai fait avec l'IA.
D'accord.
En fait, j'étais très très heureuse de participer et de faire participer plutôt un illustrateur hyper pro sur mes couvertures de l'Oneida, quelqu'un qui a travaillé pour l'Assassin's Creed qui est sorti l'année dernière, donc assez calé en SF et fantasy.
Mais en fait, science-fiction. SF, c'est science-fiction pour
exactement science-fiction. Et quand j'ai voulu en fait faire des visuels plutôt pour faire de la com à la base, faire des posts sur Insta, montrer aux gens un peu mon univers, hein, faire une sorte de mood board de l'Oneida, de l'ambiance qui règne dans ces romans de fantasy, j'ai créé tout un tas d'illustrations grâce à Midjourney Art. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ces illustrations pour faire une version rééditée et illustrer. Grosso modo, il y a une illustration par chapitre à peu près.
Donc Midjourney Arts, c'est un logiciel d'intelligence artificielle où en fait tu écris ce que tu imagines et ensuite lui il te le met en image, quoi.
En anglais, en plus.
Donc, c'est de l'écriture.
Oui, c'est ça. Il faut que je décrive ce que je veux, que je lui donne un style, que je lui donne un format. Et puis, potentiellement, il va me pondre quelque chose qui ressemble à ce que je veux. En général, on arrive rarement du premier coup à faire ce qu'on veut. Et parce que déjà, moi, je ne suis pas illustratrice, donc peut-être que je ne décris pas comme il faudrait. Et puis, tout simplement parce que bah, ce n'est pas un illustrateur. Quand j'ai décrit ce que je voulais à l'illustrateur de l'Onida pour mes couvertures, je n'ai absolument rien eu à lui redire quand il m'a fait sa proposition, ce qui n'est pas du tout le cas avec une intelligence artificielle. Il y a vraiment un travail de compréhension et de dialogue avec l'IA qui est beaucoup plus délicat et compliqué qu'avec un vrai humain, quand même.
Alors justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand on écrit pour un lecteur, automatiquement, le lecteur a des images dans la tête qui se forment automatiquement sans intelligence artificielle, avec l'intelligence humaine. Du coup, toi, quand tu écris des livres, est-ce que tu as des images qui viennent? Est-ce que tu as discuté avec d'autres lecteurs qui t'ont dit « Bah non, moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, genre cette héroïne ou ce personnage-là » C'est souvent le cas quand on regarde un film et qu'on a lu un bouquin, on dit « Mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout... moi, je n'imaginais pas cette personnage avec cette tête-là, quoi. »
Alors, quand on regarde un film, faut savoir que les acteurs qui sont choisis, ils sont pas forcément la copie conforme de ce que l'auteur ou l'autrice a pu décrire dans le livre. Ils vont plutôt s'inspirer de la personnalité plus que du physique, sauf s'il y a vraiment des traits caractéristiques. Donc, c'est normal qu'on puisse être déçu. Si je dois faire demain une illustration d'un de mes personnages ou d'une ambiance, je vais essayer quand même d'être copié-collé à ce que j'ai décrit, au moins pour ce que j'ai décrit. Après, je ne décris pas tout minutieusement. Donc, il n'y a pas 3 pages de description quand j'arrive dans une pièce ou quand je décris un personnage.
T'es pas Stephen King, quoi.
Non. Ni Tolkien d'ailleurs. Donc du coup, ça laisse quand même cette marge d'imagination au lecteur. Et puis, ben, si moi je décide de faire quelque chose, c'est plus une proposition que, on va dire, la vérité.
Là, on l'a dit, 3 tomes pour l'Oneida, donc une trilogie. Est-ce qu'il y a un 4e tome qui arrive? Est-ce qu'on peut avoir un scoop peut-être aujourd'hui, ce matin?
Alors, il n'y a pas de 4e tome qui arrive, mais il est vrai que j'ai envie de faire un séquel sur l'Oneida, c'est-à-dire un livre qui devrait se passer plusieurs centaines d'années plus tard, sachant que certains personnages ont des capacités à rester en vie très longtemps. Il se pourrait donc qu'on retrouve quelques personnages de la trilogie originelle.
D'accord, donc un peu comme Game of Thrones, où on a eu la suite dernièrement, qui s'est passée 200 ou 300 ans après, quoi.
Voilà.
Ok. Ça va sortir quand? T'es en écriture actuellement?
Alors, j'ai commencé l'écriture. Alors, si tu veux le vrai scoop, le prochain livre qui va sortir, ça ne sera pas sur l'Oneida. Ça sera un autre univers. J'ai essayé de faire dans le post-apocalyptique. Et donc, ce sera un roman qui s'appellera Le jour des cendres, l'héritage des ruines. Et on sera donc, pour ce roman-là, dans un cadre mexicain, au milieu des ruines antiques mayas. Et je n'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais la sortie est prévue pour la fin de l'année.
Alors, tu t'es aidé de l'IA pour faire les illustrations. Est-ce que tu as aidé de l'IA pour continuer ton livre et continuer ton histoire? Est-ce que tu lui fais des propositions en disant « Est-ce que ça te semble crédible que cette version-là soit comme ça ou pas ?»
Alors, dans le cas de l'Oneida, comme la trilogie est déjà écrite, ce que j'ai fait, effectivement, c'est que j'ai donné mes 3 romans à ChatGPT. Je lui ai dit « Voilà, je voudrais écrire la suite. » Je lui ai fait une sorte de pitch. « Est-ce que tu peux me proposer quelque chose ?» C'est marrant parce que ça te propose des choses, ça écrit comme toi en plus. Enfin, c'est assez bluffant là-dessus. Mais en fait, jamais ça va là où je veux, quoi. Enfin, donc j'ai essayé de faire un malheureux chapitre pour me dire, voir ce que ça va donner et vraiment rendre. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est très bien pour structurer des choses. C'est très bien pour faire une lettre de motivation, pour éventuellement écrire des posts. Mais en fait, quand on est auteur et qu'on a envie d'aller quelque part et d'emmener nos lecteurs quelque part, non, ChatGPT, ça ne fonctionne pas.
Hein. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais on est aujourd'hui en public, puisqu'on est avec les collégiens du collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen. Vous pouvez applaudir pour qu'on vous entende. Ils sont venus aujourd'hui assister à une émission et venus visiter les studios. Alors, le conseil que vous a donné de faire des lettres de motivation par ChatGPT, n'écoutez pas, hein, c'est pas une très bonne... Je pense que les profs vont pas être très contents. Alors, pour être totalement complète, en plus de faire les 3 bouquins, t'as également fait un escape game en rapport avec l'univers.
Pour l'Oneida, oui, absolument. En fait, c'était l'idée de se démarquer quand on est en salon et qu'on n'est que des auteurs... et des fois que des auteurs de l'imaginaire, de pouvoir vraiment sortir du lot. Et je me suis dit, comment faire rentrer les gens dans mon univers alors qu'ils ne le connaissent pas du tout? Je me dis, par le jeu, ça peut être vraiment sympa. Et puis, sur une famille, il va y en avoir 1 ou 2 qui vont lire, et puis les autres, non. Et du coup, bah, ils peuvent quand même faire le jeu tous ensemble, et puis découvrir l'univers, et ça leur permet d'avoir aussi un point d'échange autour de cet univers imaginaire. Pour le jour des cendres, je compte refaire la même chose et créer un nouvel escape game Maya.
Ok, toujours au Red Beer, puisque tu avais fait ça dans la cave du Red Beer, qui est un peu ton point central où tu fais des réunions d'auteurs et d'autrices, où tu joues au poker et où tu fais des dédicaces. Du coup, ça sera à nouveau dans cette cave ?
Je ne sais pas. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de les faire pour quand je suis en salon. Et puis, pourquoi pas le proposer au Red Bear, puisqu'il s'agit d'un ours rouge.
Oui, pas au Red Beer, c'est pas la bière
même
rouge.
Même si on y boit des bières.
On va faire une courte pause musicale, on repart avec la programmation Graphite juste après. On sera toujours en compagnie de AYG Bleu, Aurore G Bleu, pour nous parler de des livres et notamment du dernier qui est sorti qui s'appelle Coup de Poker, qui est en auto-édition. Vous pourrez retrouver peut-être, je crois, sur Amazon pour le moment. Il n'est pas disponible en librairie dans le continent ?
Non, pas encore.
Ok, on se retrouve juste après, c'est la matinale et on est ensemble pendant une heure.
Quantum in the moment.
Let your imagination lead. It knows everything you don't know yet and can't be aware of as our common reality unfolds linearly. As your body teaches, it holds the time and memory of all your mothers and grandmothers before, and they have been everywhere you will be and have been, and so there is never a wrong place or time leading. Allow time to emerge from its timeless degrees of freedom and take up as much space with it.
Satellite, dark stretch, pink shadows of the future. Red jab, big wave, free jazz, highway, long grown bubble. Long grown bubble. Cold train, strawberry mention of supreme. Plasma through concrete,
life's a dream.
High screeching, feedback Rosetta. Looking the ever present wave. Quantum, black.
Voilà un extrait de la programmation chelou de Graphite avec Murmoser Umsenzi. Je ne sais pas si je prononce vraiment bien, c'est un moment pour vous préparer doucement pour aller au boulot. Toujours en compagnie d'Aurore G Bleu, AYG Bleu, pour parler du livre Coup de Poker qui vient de sortir. Et toujours en compagnie des collégiens du collège Jules Verne de la Croix-Saint-Ouen qui sont toujours présents et toujours réveillés, il me semble. C'est bien les émissions en public.
Moi, j'aime bien.
C'est plutôt bien. Hein. Alors, on va parler un peu de la suite, puisque après l'Heroic Fantasy, t'es parti d'abord dans l'univers de l'enfant, il me semble, si je dis pas de bêtises chronologiquement.
Oui, j'ai fait des contes pour enfants.
Et ensuite, un bouquin qui s'appelle 62 minutes, une biographie poignante entre un drame familial et un fait médical extraordinaire. Donc, l'histoire, c'est quelqu'un en local qui est morte, quoi.
C'est ça, pendant 62 minutes. En fait, tout le challenge, c'était de se dire, si j'appelle le livre 62 minutes, on va tout de suite savoir que la personne, en fait, elle n'est pas morte. Parce que si elle est morte, on ne compte pas les minutes.
Bien sûr.
Donc, c'est qu'elle s'est réveillée au bout de ce temps-là. Et en même temps, comment on va garder le suspense pour savoir ce qui s'est passé vraiment, comment je vais pouvoir traverser leurs émotions, les propager jusqu'au lecteur. En sachant que c'était quand même des grands moments d'entretien très forts. Donc il me raconte cette histoire et le challenge a été réussi. Je pense que j'ai réussi à tirer une larme à tous les lecteurs de 62 minutes. Je suis assez fière de ça.
Et là, est-ce que tu avais déjà commencé la radio en 2023 quand c'est sorti? Est-ce qu'il y a un côté un peu journalistique, le fait d'aller... Parce que le premier, t'écris une histoire que t'inventes dans ta tête. Le suivant, tu vas récolter une parole. Est-ce que pour toi, il y a un petit côté journalistique, radiophonique ou...
Complètement, complètement. Puisque du coup, si le lectorat, est, on le traite de la même façon, qu'il soit fan de l'imaginaire ou fan de biographie, la façon de traiter l'information, elle est complètement différente. Quand ça vient de ma tête et que je peux imaginer ce que je veux, je vais vraiment me laisser guider par ma plume. Parfois, les personnages font des choses que je n'avais pas imaginées en amont, parce que j'aime vraiment partir d'un fil rouge et continuer l'écriture comme ça. Mais quand là, il s'agit d'écrire la vie de quelqu'un, en tout cas une partie de sa vie, de raconter avec véracité, en étant vraiment authentique et proche de leurs émotions qui ont été vécues, qui les ont traversées. Il a fallu vraiment que ma voix se fasse leur et qu'en même temps, ce roman soit la tribune de ce qui leur est arrivé. Donc parfois, j'ai entendu des choses de leur bouche qui m'ont révoltée sur la façon de traiter les patients, des choses comme ça. Et quand j'ai voulu le mettre dans le roman, déjà, je me suis freinée parce que c'est pas ce qu'ils avaient envie de faire passer comme message. Et quand eux, ils ont relu, ils m'ont refreinée encore en me disant « Voilà, maintenant, nous, en fait, on est contents parce qu'au bout du compte, ça s'est bien passé pour telle et telle raison. » J'ai dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Il me dit, oui, je sais, mais en même temps, c'est pas ça le message qu'on veut faire passer. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est... Et moi, je suis là pour faire passer leur message. Donc, c'est vraiment un autre travail. Je me suis aussi rendu compte que c'est pas un travail que je pourrais faire avec tout le monde, parce qu'il faut vraiment travailler en toute transparence et en toute bienveillance, parce que tant les retours qu'ils me font, eux, que moi, la façon d'écrire sur eux, il faut que, voilà, on puisse entendre la voix de chacun. Mais pour autant, ça m'a donné envie de continuer à écrire sur le réel et de récolter ça, des interviews et des choses.
Du coup, c'est plus écrivain public que journalistique ?
J'irais pas dire ça non plus, parce qu'au bout du compte, c'était pas un roman familial, c'est pas resté dans la sphère privée. Le roman, il a quand même été publié, il est fait pour un lectorat qui les connaît pas forcément. Voilà, on écrit leur histoire et en même temps, c'est pas un témoignage, c'est pas une biographie. Moi, je dis roman biographique parce que ce que j'écris avant tout, ce sont des romans. Que ce soit des faits réels ou des faits imaginaires, vraiment la façon que j'ai d'aborder les sujets, je le fais sous forme de roman. Il y a du suspense, il pourrait être réel, il pourrait ne pas l'être. Donc voilà, ça se lit.
Ça s'appelle 62 minutes. C'est pareil, en auto-édition également. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a un peu sauté entre les contes pour enfants. Il y a eu également un bouquin qui a été écrit à plusieurs auteurs qui s'appelle Le Bonheur au Travail en tome 3. C'est donc une satire des grandes entreprises. C'est ton passage chez Air France qui t'a fait écrire une partie de ce livre ?
Oui, exactement. En fait, j'ai fait une sorte de petit déjeuner d'entreprise avec d'autres personnes, d'autres entreprises différentes quand j'étais chez Air France. Et puis, ils ont fait un petit atelier d'écriture. Ils ont dit, ben voilà, on a publié le tome 1 et le tome 2 du Bonheur au Travail. On cherche des co-auteurs pour le tome 3. Si ça vous chauffe, appelez-nous. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. À ce moment-là, chez Air France, j'avais un rôle de happiness officer. Donc, le Bonheur au Travail, j'étais en plein dedans. Et je me suis dit, ben pourquoi pas participer à cette aventure. Et ce qui était, ça a été fait en même temps que la trilogie de l'Onéida. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que quand j'ai écrit l'Onéida, j'étais sur un domaine de l'imaginaire et j'ai pris le parti d'avoir plusieurs narrateurs. Donc sur chaque chapitre, il y a un narrateur différent. J'écris toujours à la première personne, donc c'est je ceci, je cela. Mais voilà, j'écris pour plusieurs voix. Et quand on a fait Le Bonheur au Travail, ben on était plusieurs auteurs à écrire d'une même voix. Et c'était complètement le travail inverse sur, en plus, un domaine du réel. Même si ce n'était pas une histoire vraie, on est sur le domaine du réel, l'entreprise, la grande entreprise notamment. Et donc, du coup, c'était vraiment très intéressant de faire ce travail en parallèle de l'écriture de l'Onéida.
Tout à l'heure, quand on a fait un tour avec les élèves pour demander ce qu'ils voulaient faire, il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait voyager. Alors, je ne sais pas où aller, qui c'est qui voulait voyager. Toi, tu étais chez Air France, mais au sol. Oui, mais par contre, tu as beaucoup voyagé grâce à Air France parce que tu avais les tarifs d'Air France.
Oui.
Donc, si on veut voyager et qu'on ne veut pas forcément bosser dans un avion, on peut bosser au sol et puis être happiness manager.
Absolument.
Le voyage, c'est important dans l'écriture parce que c'est vrai qu'on va le revenir sur Las Vegas. Est-ce que le voyage, ça nourrit ton imagination, ça nourrit ton écriture ?
Je pense que c'est une des trois raisons qui me donne le plus envie d'écrire, de voyager. Là, sur Le Jour des Cendres qui sortira à la fin de l'année, ça se passe dans les ruines mayas du Mexique. C'est quelque chose que j'ai rêvé Il y a plusieurs années, je me suis réveillée un dimanche matin à 6h avec « Oh, mais cette idée, elle est géniale !» et tout. Je me suis levée, j'ai tout noté. Et j'ai eu envie, et plusieurs fois, j'ai commencé à écrire ce roman. Et en fait, je me suis dit « J'arriverai jamais à l'écrire si j'ai pas vu de mes propres yeux, si je me suis pas baladée moi-même dans les ruines. » Donc j'ai attendu l'année dernière pour aller au Mexique pendant 15 jours, passer des vacances. Je me suis baladée à Tulum, à Chichen Itza, enfin dans les plus grands sites de la péninsule du Yucatan. Et après, je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Et là, mon roman, en 2 mois, il était fait, quoi.
C'était un lendemain de soirée au Red Bear que tu as repensé à ça, que tu as rêvé de ça, ou c'était un lendemain de soirée ou pas du tout?
Je ne crois pas. Ça aurait pu, mais je ne crois pas. Non, mes rêves, ils sont trop chelous quand j'ai un petit peu bu la veille.
Donc, tu notes à chaque fois, tu as ton téléphone à côté ou un petit carnet pour écrire ce que tu as pensé?
Oui, j'avais écrit sur un carnet. C'était un carnet A4 et j'ai fait 2 doubles pages. Donc, voilà, j'avais vraiment noté plein de trucs.
Alors, les rencontres d'auteurs et d'autrices, t'en fais également, puisque en ce moment, tu organises des espèces de séminaires ou de réunions ou de résidences d'écriture. notamment, je crois que ça se passe dans une boutique compiègne de jeu qui s'appelle L'Entre-deux-Mondes. Également, toujours au Red Beer aussi. Red Beer, où est-ce que, comment ça se passe?
Non, c'est à L'Entre-deux-Mondes. On a fait, oui, à la maison, par une association qui s'appelle Prose Café et qui organise des résidences, grosso modo, dans un rayon de 150 km autour de Paris pour l'instant. On change de gîte à chaque fois. Et moi, j'avais proposé que les auteurs puissent venir à la maison parce qu'il y a de la place pour dormir, il y a de la place pour travailler. On a fait ça récemment au mois de mai. On avait fait ça déjà il y a 2 ans, une première fois. Et puis, comme je trouve que c'est vraiment stimulant d'être entre artistes et de pouvoir, pour autant, chacun travailler sur son sujet, mais à certains moments, échanger sur des difficultés que bah, toi, tu as déjà eues, et puis moi, pas encore, et je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Enfin, donc, il y a cette phase d'échange, il y a cette phase de travail sur nos projets, mais ensemble, d'une certaine manière, chacun dans sa bulle. J'ai eu envie de recréer cet espace-là une fois par semaine avec L'Entre-deux-Mondes, puisqu'ils ont une salle très accueillante en sous-sol, dans l'antre, c'est vraiment dans l'antre. Et donc tous les vendredis, la salle est réservée pour les auteurs et les artistes qui auraient envie, pardon, de venir travailler là.
Ouais, là-bas, c'est une salle où on peut aller jouer aux cartes, aux Pokémon.
Ça, il y a tout un bar à jeux, on prend ce qu'on veut, on teste. Mais du coup, le vendredi, c'est réservé pour nous.
C'est quoi tes...
Enfin, nous et tout le monde, parce que celui qui a juste envie d'écrire et de rencontrer d'autres auteurs du local peut venir et bienvenue.
Et ressemble à quoi tes camarades et camarades de jeu, là, actuellement? Qu'est-ce qu'ils écrivent? C'est quoi? C'est de la fiction? C'est quoi?
Beaucoup de fiction, ouais. De la fantasy, pas mal. J'ai aussi pu initier à L'Entre-deux-Mondes une fois par mois des ateliers d'écriture. Et en vrai, sur un groupe de 12 personnes, il y en avait 2 qui avaient envie d'écrire sur le réel. Plutôt sur des parties autobiographiques ou en mode autofiction, et quand même une dizaine qui écrivaient plutôt sur de l'imaginaire et la fantasy, ça plaît beaucoup.
Il y a t'as des noms des bouquins qu'ils ont déjà sortis, s'ils ont déjà sorti des choses à nous conseiller ou faut te laisser le temps? Non, ils n'ont pas sorti de choses ou...
Non, la plupart, il y en a une qui a édité 2 nouvelles dont je n'ai pas le titre en tête. Et les autres n'ont pas publié. Il y en a qui cherchent d'ailleurs des éditeurs et qui étaient là aussi pour trouver des conseils de gens plus expérimentés et puis peut-être aussi pour pouvoir réécrire leur texte ou certains morceaux de leur texte pour plus coller à ce que cherchent les éditeurs actuellement.
Alors, coup de poker, chronique de Las Vegas, comment ça a commencé? Alors déjà, avant toute chose, est-ce que le poker c'est un sport ou c'est un jeu? Ou les deux?
C'est les deux. Déjà, de base, il faut que ça soit aussi une passion, parce que les gens qui jouent vraiment au poker pour aller jusqu'à Las Vegas pour jouer, c'est quand même que c'est vraiment une passion. C'est évidemment un jeu, parce qu'on est quand même là pour jouer en convivialité. Les joueurs dont je parle sont 3 joueurs amateurs, donc c'est des joueurs qui jouent dans des clubs associatifs. Donc c'est récréatif, ce sont des joueurs récréatifs, ce ne sont pas des joueurs professionnels du tout. Et en même temps, c'est un sport, parce que quand on doit rester concentré 12 heures dans une journée pour jouer au poker face à d'autres gens et être assez alerte pour se dire « est-ce que là, je dois payer, je ne dois pas payer, est-ce qu'il est en train de me bluffer ou pas ?» Il faut garder sa lucidité, et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le sport de haut niveau notamment.
On en parle juste après un extrait musical. On part en musique avec la prog de Graphite. On parle toujours de coup de poker avec AYG bleu, Aurore G bleu pour ce nouvel ouvrage. On se retrouve juste après. They can put a lead on you, but they'll never learn.
they can never turn cat into dog. Come on, let it go wild. You can't keep a creature like this. You gotta get it untied. Just because the world can't see doesn't mean it's not living inside. Not living but waiting until you're gonna take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. Take it outside. The light band, signs sinking in a deep dead pool. How good does the world I feel of being sick of living inside? Not living but waiting until you're gonna take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. Take it outside.
Ferdinand sur les ondes du 94.9 www.graphite.net pour la matinale. Nouvel album sorti en 2025, c'est peut-être déjà en rotation sur Graphite, ça s'appelle The Human Fear et le titre c'est Cats. On pourrait presque faire une programmation spéciale qu'avec des chats, puisqu'il y a beaucoup de titres avec des chats hein, et puis également des chevaux, mais on l'a pas encore fait, peut-être prochainement. Aurore, on reparle de ton livre qui vient de sortir qui s'appelle Coup de Poker, la chronique de Las Vegas. On t'imagine du coup toi qui écris des livres plutôt sérieuses, comment t'es venu le vice du jeu d'argent?
Le vice du jeu. Non, je disais justement qu'on était dans une partie récréative. L'idée de jouer au poker, c'est pas forcément d'y laisser sa paye. C'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt de vraiment profiter et on n'est pas obligé forcément de jouer de l'argent. Évidemment, quand on est à Las Vegas, on est obligé de jouer de l'argent. Mais avant d'arriver là, il y a quand même plusieurs étapes qui peuvent permettre à un joueur de s'améliorer au point de se dire « Tiens, si j'allais jouer de l'argent. » Moi, j'ai commencé à jouer grâce à une entreprise qui s'appelle Red Cactus, qui propose des parties gratuites dans les bars et dans les restaurants. Sur Compiègne, on peut jouer notamment le mercredi soir au Red Bear ou le jeudi soir au restaurant Del Arte. Et en fait, ça marche comme dans tous les clubs sportifs classiques. Les meilleurs du lieu partent en finale régionale, les meilleurs des finales régionales partent en finale nationale, et le gagnant de la finale nationale prend un package pour repartir à Vegas jouer le championnat du monde.
Et là, c'est arrivé un petit peu par hasard, en fait, aux gagnants, en fait, aux finalistes. C'est un peu ça, l'histoire. Ils sont arrivés en finale, mais ils ne s'y attendaient pas.
Alors, en fait, il se trouve que la cofondatrice de Red Cactus, c'est quelqu'un avec qui j'étais au lycée. Et puis, quand je suis allée en finale nationale, j'étais accompagnante. Moi, personnellement, je ne l'avais pas joué cette année-là. Elle me dit, tiens, on prend un café et tout, OK. Et puis elle me dit, bah, Aurore, t'es autrice et tout, comment ça se fait que t'as jamais écrit sur le poker? Je lui dis, en vrai, les histoires sur le poker, c'est quoi? C'est des polars bizarres avec des gens qui perdent tout leur argent ou des meurtres dans les placards et tout. Je lui dis, moi, j'écris pas ce genre de truc. Si j'écrivais sur le poker, ce que je voudrais écrire, c'est une success story. Et du coup, elle m'a dit, ok et tout, bah, y a qui que tu connais qui joue? Je lui dis, bah, y a Tom, mon compagnon, qui joue. Et puis. Il y a Limper aussi, qui est le président de notre club associatif. Je lui dis, bah vas-y, s'il y en a un des deux qui gagne, je pars à Vegas avec vous, j'écris un livre. Et il se trouve que c'est Limper qui a gagné.
Alors, comment on a l'idée de sortir un livre, enfin d'écrire un livre déjà, pour commencer? Et comment on récolte la matière au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure du voyage?
Alors là, ce qui était compliqué, c'était que tant que j'étais pas partie à Vegas, je savais pas comment mon livre allait se terminer. Je savais que j'allais écrire sur Limper parce que clairement c'était lui qui nous avait embarqué dans cette aventure avec sa victoire en tant que champion de France Red Cactus, champion de France amateur du coup. Et je me suis dit, ok, c'est sûrement pas le seul joueur sur lequel je vais avoir envie de parler, mais en fait, je vais y aller avec eux. On est parti, on était 14 personnes. De plus ou moins de joueurs Red Cactus. Et puis je me suis dit, bah, je vais voir qui fait quoi sur place, je vais essayer de suivre un peu tout le monde. Et puis voilà, s'il y a des défaites marquantes, s'il y a des succès marquants, c'est là qu'il faut aller et c'est sur ça qu'il faut tabler en fait.
Le dicton dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Est-ce qu'il y a des choses qui s'est passé à Vegas qui ne sont pas dans le livre aujourd'hui?
Alors le dicton du film Very Bad Trip dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Le dicton, en revanche, quand tu arrives à l'aéroport de Vegas, dit ce qui se passe à Vegas n'arrive qu'à Vegas. Et en vrai, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Parce que ce qui se passe là-bas n'arrive nulle part ailleurs. Et non, tout ce qui s'est passé à Vegas, même des trucs un peu étranges ou qu'on ne ferait pas en France ou que j'ai hésité à mettre, je les ai quand même mis dans le roman parce que je trouvais que ça faisait partie de l'expérience. Et si on avait été ailleurs, peut-être que je n'aurais pas osé. Mais là, je me suis dit, allez, c'est Vegas.
Là, le bouquin, il est plus en mode carnet de voyage. C'est un peu ça, c'est genre, tu parles de personnages, de temps, de lieux. C'est comme ça que c'est construit?
Alors, on va suivre trois personnages. Du coup, j'ai fait le choix de suivre trois personnages, Limper, Jay et Tom, dans leur pérégrination pokeristique à Vegas. Pour autant, on va faire quelques incursions sur d'autres lieux que l'étape de poker. On va partir au Grand Canyon, par exemple. Et on va aussi avoir les voix de professionnels du monde du poker pour nous expliquer un peu leur vision aussi du poker en France, en Belgique, et comment un amateur en fait, peut arriver à perfer. À faire quelque chose, à gagner de l'argent en allant à Vegas, mais pas en partant de zéro, quoi.
Donc là, il y a un prize money, il y a de l'argent à la fin de la compétition à gagner?
Alors le WSOP, qui est le championnat du monde de poker qui se passe à Vegas, c'est un buy-in à 10 000 dollars, donc il faut mettre 10 000 dollars pour être à table, c'est ce qu'on te demande.
Donc le club paye 10 000 dollars pour envoyer l'équipe, c'est ça?
Donc Red Cactus a payé 10 000 dollars pour que Limper puisse s'asseoir à cette table de championnat de France, de championnat du monde, absolument. Et à la gagne, c'est 10 millions de dollars qu'il peut y avoir.
Il a gagné combien à la fin? Ils ont gagné combien?
Alors Limper, il a malheureusement pas gagné. Il y a Jay qui a fait le WSOP aussi, qui s'est payé ses 10 000 dollars avec ses propres deniers et qui a fait ce qu'on appelle un deep run, qui est quand même allé assez loin, en tout cas pour un amateur dans le tournoi. Je n'en dirai pas plus pour savoir, il faudra lire le livre.
Vous avez fait quoi à Las Vegas en dehors de jouer au poker? Puisque Las Vegas, on retire les montres, les horloges. Le but, c'est que 24 heures sur 24, vous soyez dans la frénésie du jeu, parce qu'il n'y a pas que le poker, il y a les machines, il y a tout le décorum, le carton-pâte un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu que vous avez bu des bouteilles de champagne à la première victoire.
Ben, on en avait pris dans nos valises, effectivement, donc on s'est fait plaisir. Ce qu'on a fait, en fait, on a passé des vacances. On était là pour passer des vacances. Il fait 50 degrés dehors. Il y a des piscines dans tous les hôtels et les piscines sont accessibles à tout le monde. Donc, il suffit de se trimballer avec son maillot de bain et puis d'aller faire une petite trempette dès qu'on a envie, dès qu'on a un petit coup de chaud, dès qu'on n'a plus envie de jouer ou qu'on s'est fait bust d'une table. Ben voilà, on profite, quoi. On a aussi pas mal baroudé à travers les hôtels. Moi, ce que j'ai trouvé assez formidable à Vegas, alors je ne sais pas si c'est effrayant ou formidable en réalité, mais c'est que les décors sont magnifiques. Enfin, c'est encore plus magnifique qu'à Disney, c'est encore plus magnifique qu'en vrai. Je suis allée à Venise. En vrai, je n'ai pas trouvé que c'était terrible, dans le sens où je m'attendais à la Venise rutilante de l'époque, et puis j'ai eu la Venise décrépite d'aujourd'hui. Quand je suis allée à Venise, à Vegas, donc à l'hôtel Venezia, ben, je pouvais faire de la gondole pour le même tarif que dans le vrai Venise, dans des décors qui était flambant neuf, et en fait je me suis dit ils ont tout compris, parce que c'est ça qu'on veut. Enfin, quand on est touriste, on a envie d'un truc beau, et ils ont vraiment tout compris. Quand on se balade dans l'hôtel Paris et qu'on a des petites ruelles du Paris des années 20, c'est trop mignon. Enfin, aujourd'hui, pour retrouver ça à Paris, tu peux courir, quoi.
Tu t'es marié devant Elvis Presley ou pas? Est-ce que Elvis vous a marié?
Alors non, pour te dire la vérité, la seule chapelle que j'ai vue, déjà j'étais avec mon frère, donc je ne me suis pas mariée.
Marché.
Et c'était très bizarre parce qu'on était dans une sorte de hall, genre au deuxième étage de l'hôtel, avec grosse moquette épaisse et tout. Et en fait, si je traversais ce hall entre l'ascenseur et que je traversais tout le hall, j'arrivais à la piscine. Et sur la gauche, il y avait une salle qui servait de chapelle. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout glamour. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres chapelles dans le vieux Vegas, qui est un lieu que je n'avais pas eu l'occasion de faire parce qu'on a tellement joué et on est tellement resté centré sur le strip, donc les Champs-Élysées de Vegas, qu'on n'est pas allé jusque dans le vieux Vegas. Bonne nouvelle, j'y retourne au mois de septembre, donc je vais pouvoir aller faire ce que j'ai pas eu le temps de faire la dernière fois.
T'y retournes en vacances ou t'y retournes pour la suite du livre?
Non, j'y retourne en vacances cette fois, en faisant un petit road trip Las Vegas, les canyons, Los Angeles, San Francisco, et puis je vais pouvoir être très très contente de présenter ce livre aussi à des endroits où je suis passée. Disons, je parle de vous.
C'est quoi les nationalités que tu as rencontrées là-bas? Parce que vu que là, c'est une compétition mondiale, avec qui tu as discuté? Quels sont les pays les plus cools, les pays les moins cools? Vous avez eu des échanges? Alors, c'est vrai que souvent, quand on pense au poker, on peut le voir notamment sur les petites cartes que tu nous as ramenées. Les mecs sont avec des casquettes, des lunettes pour avoir le poker face.
Suite à capuche.
Suite à capuche. Du coup, c'est quoi ceux qui sont les plus relax?
Écoute... Effectivement, c'était une compétition complètement internationale, mais ceux que j'ai croisés le plus, c'était des Américains. Et j'ai souvent entendu, en vrai, j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, et j'ai souvent entendu que les Américains, c'est des gens hyper sympas et tout. En vrai, quand je suis allée à New York, c'est comme quelqu'un qui vient à Paris, hein, les Français sont pas très cool. New York, c'est les Américains, je les ai trouvés détestables. Et il y a d'autres endroits où j'ai pas eu forcément l'occasion de leur parler. Bah là, à Vegas, j'ai pu prendre l'occasion de parler avec les gens qui étaient à table avec moi. J'ai trouvé vraiment cet esprit-là de gens avenants, très sympathiques. Tu leur fais un méga sale coup à table avec tes cartes, les mecs ils te disent bien joué et tout, ils sont pas rancuniers. En France tu vois pas ça, hein. Enfin, les mecs ils ont envie de te faire une bagarre de saloon quoi, si tu leur fais un mauvais coup.
Toi tu joues toujours au poker?
Ouais, 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 bien sûr. Ouais.
C'est quoi le niveau? Comment on fait un classement au poker? Alors au sport, il y a un classement national, international. Vous, c'est comment l'histoire du classement? Comment ça se passe?
Alors, quand on joue en club, même quand on joue à Red Cactus, grosso modo, tu fais un tournoi par soir. Donc, toutes les semaines, tu as un tournoi d'une table, deux tables ou trois tables. Ça dépend où on joue à Red Cactus.
Tout niveau confondu, du coup.
Tout niveau confondu, oui. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Et c'est ça qui est assez fort au poker. C'est que peu importe déjà ton milieu social, tu es autour de la table, tu vaux pareil que ton voisin.
Il faut quand même ramener 10 000 balles, quoi.
Ah, au championnat du monde, ouais. Oui, mais quand tu joues en club, non, ouais. T'as payé ta licence de club et puis voilà, c'est tout. Quand t'es au Red Bear, tu joues au poker, t'as payé ta bière et voilà, tout le monde est pareil. Et puis ben après, c'est un classement qui se fait soit sur le quadrimestre, si on est chez Red Cactus, soit à l'année, si on est dans un club associatif. Et grosso modo, ben, celui qui est arrivé premier ce lundi, il va cumuler X points, beaucoup plus que celui qui est arrivé 35e. Et puis le classement se fait sur l'année. Et à la fin, les trois premiers joueurs de club... c'est en fonction de la taille du club, mais grosso modo, entre 1 et 3, 4 joueurs du club, les premiers vont pouvoir prétendre au championnat de France de l'année prochaine, etc. Enfin...
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de gain tout au long des parties, entre guillemets, d'entraînement. Le gain potentiel, c'est quand tu pars, que tu es en finale et que le club te paye le price pour aller conquérir, c'est ça ?
C'est ça. Avec Red Cactus, il y a l'étape du milieu qui ne se fait pas en club, qui est l'étape finale régionale. Et comme ils sont partenaires avec PokerStars, il y a quand même une dotation de prix. Donc tu joues toujours gratuitement, mais tu peux quand même gagner. Alors tu ne gagnes pas d'argent, mais tu gagnes des cadeaux, des goodies, et tu peux aussi gagner des sommes à dépenser sur PokerStars.
Alors, tu as été faire des interviews, notamment, je crois, à la radio ou à la télévision. Maintenant, tu es même accompagné d'une assistante, hein, dis donc, high level, hein, ça, on a passé d'un cap. C'était quoi l'histoire de l'interview dans le monde du poker auquel tu as participé ? Chez RMC ou chez... c'est ça ?
Alors, ouais, en fait, pour préparer le lancement de ce livre, ce que j'ai fait, c'est contacter des influenceurs poker, des chroniqueurs littéraires et des médias. Parmi eux, bah, j'ai contacté Daniel Riolo du RMC Poker Show, parce que c'est un peu the émission de poker en France. Et j'ai eu la bonne surprise qu'il me réponde très rapidement. Je lui ai envoyé le livre et une semaine après, même pas, je reçois sur mon téléphone, sur WhatsApp, un vocal d'un numéro que je ne connais pas. Et là, je me dis, oula, c'est encore bizarre. Enfin, on est tellement habitué à avoir du phishing ou des trucs comme ça. Et j'écoute le message. Et là, c'est « Oui, salut Oran, je suis Jérémy, producteur du RMC Poker Show. Daniel m'a transmis ton mail. Si tu as envie de parler de ton livre dans l'émission de cette semaine, on sera content de te recevoir. Rappelle-moi quand tu as 5 minutes. » Et là, je fais « Ok, vraiment ?» Et j'étais genre un peu choquée. J'ai 5 minutes, oui, j'ai une demi-heure, j'ai la semaine, même s'il faut. J'étais vraiment, genre, vraiment super contente qu'il m'appelle, de pouvoir venir 3 jours plus tard. On s'est rendu au RMC Poker Show et puis parler de la sortie de Coup de Poker, du coup.
Il y a un retour véritable sur les ventes. Est-ce que, du coup, dans la nuit de la diffusion de l'interview, tu as vu tes ventes augmenter, devenir numéro 2 sur Amazon ?
Alors non, ça n'a pas été exponentiel à ce point-là. Mais aujourd'hui, il y a encore des joueurs, là, un mois après, qui écoutent l'émission, qui me commandent des livres, soit via Amazon, soit directement sur mon site internet, et avec qui je peux échanger aussi, parce qu'ils me font des fois un retour sur Insta, ou quand ils commandent sur mon site, je leur écris pour leur demander s'ils veulent une dédicace ou pas, chose que je ne peux pas faire via Amazon. Et du coup, je me dis, ça touche des joueurs de la France entière que je n'aurais sûrement pas touché autrement qu'en passant par cette émission nationale. Donc c'était très cool.
Là, quand tu vas en salon ou en convention, t'emmènes quel bouquin ? Est-ce que tu sépares les conventions ? Est-ce que quand tu vas, je sais pas, à la Compiègne Geek Convention, tu vas avec le Naïda ? Quand tu vas dans un autre salon, tu vas avec le dernier ? C'est comment on fait la promo de ces livres ?
C'est compliqué quand on écrit des choses très différentes comme moi. Donc effectivement, je suis obligée de sectoriser un petit peu. Quand je suis sur des salons de l'imaginaire, je vais emmener les contes et puis l'Oneida. Prochainement, j'emmènerai aussi le jour des cendres. Là, pour coups de poker, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, je vais aller au final régional Red Cactus qui se passe en ce moment, sur les week-ends. Donc ils m'ont invité à venir présenter le livre sur les finales Île-de-France. Et puis il y a les championnats de France associatifs de poker à Aix-en-Provence qui vont se dérouler fin du mois de mai, et du coup je vais pouvoir aussi y aller et proposer mes livres. Là, ça va être vraiment aussi intéressant parce qu'il va y avoir des joueurs de la France entière qui vont pouvoir diffuser le mot. Donc je verrai aussi si après des événements comme ça, j'ai une augmentation exponentielle de mes ventes.
On va faire une courte pause musicale avec la programmation de Graphite. Juste après, on parlera également pour terminer de l'émission Poker, maintenant que tu as lancé sur Radio Graphite. C'est la matinale, on est ensemble pendant une heure. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Et tout de suite, un extrait de notre programmation.
Found a knife in a stash of women's photographs. Tied this with a lipstick kissed off. Fingers and thorns like guns pressed to the temples. Said to a daughter, Loretta,
snow-covered lashes. He looked at her with a sudden sadness and said, let's enjoy this season. Come spring, I'll leave him alone.
She cried when she saw a flock of birds returning home. They kissed goodbye and he climbed in his truck. She plucked pink petals from his hair as the engine started.
Child is a lesson in this. Forget the boy who loved to me. She disappeared in the evergreens. Next day, they searched the woods for the brother. I'm past the creek under canopy cover. We're over the moon's ancient moon. We're living in his aliens. The sun cut through the shade, brought a glow to her face. Igniting a violet shine on her open eyes. Her neck a mess of snake bites and flies.
Loretta, extrait de l'album Burst Marx. Donc c'est le groupe Bambara sur les ondes du 94.9 www.graphite.net pour la matinale. Toujours en compagnie de Aurore Gébleu, qui est également animatrice à la radio. Elle parle de son livre Coup de poker, chronique de Las Vegas, donc Las Vegas au Nevada, puisqu'il y a un petit sous-titre Nevada. Je pense que c'est la plaque de Las Vegas, c'est ça?
Oui, c'est ouais. Ça, c'est comme le panneau emblématique.
Et donc on parlait juste avant de l'émission que tu proposes maintenant. Je suis tellement bon dans ce qui se passe sur Graphite, c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois.
Alors on était parti en vrai sur une fois par mois pour le Tilt Show, on appelait ça le Tilt Show. Et la première émission, elle a hyper bien marché, enfin, on a eu de super retours. Du coup on s'est dit bon, on va surfer un peu sur le truc. Donc maintenant on fait une émission tous les 15 jours en fait, depuis le début quasiment.
Qu'est-ce que vous racontez dans cette émission ?
On a plusieurs rubriques. L'idée c'est toujours de parler d'un événement poker, si possible en local, ou un événement en tout cas important, phare sur le poker amateur. Et c'est important, je le redis, parce que vraiment l'idée c'est de pouvoir être sur du poker récréatif. Donc si on peut, ben, on a un invité sur cette première partie. On peut parler des championnats de France par équipe, des championnats de France individuels, de ce qui se passe dans les clubs. Faut savoir qu'autour de Compiègne il y a quand même 3-4 clubs aussi. On a reçu des capitaines d'équipe, des présidents de clubs. On a reçu la Fédération de France de poker aussi. Enfin, voilà, on a quand même du beau monde qui a bien voulu se prêter au jeu du Tilt Show. Et ensuite, nos autres rubriques, l'idée, c'est de pouvoir décoder quelques règles. À chaque fois, on décode soit une règle, soit du vocabulaire vraiment lié au poker. On essaie de faire une main parfaite. Donc, on propose, t'as les as dans telle situation, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là qu'on rentre un peu plus dans la technique, parce que ça va dépendre de ta position à table, de combien t'as en jetons, etc. Et on détaille ça pour prendre les meilleures décisions. Et puis on débat entre nous parce qu'on n'a pas la même façon de jouer. Donc c'est aussi enrichissant d'avoir les expériences des uns et des autres. Et pourquoi tu aurais fait ci et pas ça, etc. Et puis la dernière rubrique, ça s'appelle l'écho des tables. Et l'idée, c'est de parler d'un sujet de société autour du poker, hein. Soit d'actualité ou soit plus récemment, on a parlé de cinéma, du poker au cinéma. Et voilà, 'fin...
Toi, tu joues au poker en ligne ou pas du tout ?
Un petit peu. En vrai, il y a une chose qui est hyper importante pour les joueurs de poker quand ils jouent en live, donc à table avec d'autres personnes, c'est d'arriver à décoder les tells des autres, donc c'est-à-dire les indices qui te font dire que lui, il a rien ou peut-être il est vraiment blindé dans ses mains. Moi, je suis très 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 nulle pour faire ça. Donc quand je joue surtout avec mes cartes et avec ce qui tombe sur la table. Donc le poker en ligne, pour moi, c'est parfait parce que j'ai personne qui est en train de me chauffer et de me dire « Ah, t'as rien, t'as ci, t'as ça ». Personne ne me parle. De toute façon, si je les regardais, je ne verrais rien. Donc autant que je ne les voie pas. Et voilà, donc le poker en ligne, c'est pas mal. Et ça permet aussi de maîtriser son budget parce qu'on peut commencer, il y a des fois, on peut faire des choses, des free rolls, jouer gratuitement en ligne, et on peut aussi commencer avec des 25 centimes, 50 centimes, sans jouer du coup des sommes astronomiques. Donc c'est cool aussi de pouvoir se faire plaisir pour pas cher.
Alors c'est vrai que c'est un jeu d'argent quand même, en premier lieu c'était un jeu d'argent. Comment c'est assez réglementé en France ? Comment ça se passe entre les clubs ? Comment c'est quoi la frontière ? Vous n'avez pas le droit de jouer de l'argent ? Est-ce qu'il y a des contrôles ? Est-ce qu'il y a la police des jeux qui vient vous voir ?
Alors, la réglementation, elle est assez claire. Grosso modo, on n'a pas le droit, comme on est considéré comme un jeu de hasard en France, on n'a pas le droit, en tant qu'association, de payer une entrée et d'avoir une espérance de gain. Donc grosso modo, on ne peut pas faire de tournoi payant si on n'est pas sous le couvert d'une institution type casino. C'était d'ailleurs très intéressant l'interview de Max, qui est président club en Belgique, dans Coup de Poker, parce qu'en Belgique, ça se passe différemment. Ils ont une tolérance différente au niveau des clubs. Nous, c'est comme ça. Donc bah, du coup, on organise très peu de tournois. En vrai, il y en a qui sont organisés, mais du coup, l'espérance de gain, déjà, elle n'est pas en euros, enfin, elle est en lot, comme un loto. Et l'idée, c'est que ça reste convivial. Donc on ne fait pas de publicité, c'est pour les gens du club, en fait, pour les adhérents. Donc quand on reste vraiment dans ce cadre-là associatif, on peut faire des choses, mais c'est quand même très encadré. Et oui, il faut faire attention à la police des jeux. En vrai, on n'est pas... en train de trembler devant la police des jeux, tant qu'on reste dans un cadre convivial, j'irais pas jusqu'à dire familial, parce qu'on est un peu plus nombreux qu'une famille, mais il y a un peu un côté comme ça.
Donc on peut pas arriver, chacun payer 100 euros, et puis à la fin, le gagnant part avec 1000, 10 000 euros dans la soirée, quoi.
Pas du tout.
Pas possible.
Et du coup, là je parle d'organiser éventuellement des tournois, mais absolument pas de cash game par contre. La différence entre un tournoi et un cash game, c'est qu'un tournoi, tu vas payer, admettons, 100 euros, il y a que les 9 premiers ou les 5 premiers qui vont prendre quelque chose. Si tu fais du cash game et que tu mets 100 euros, tu peux partir à n'importe quel moment, et tes jetons valent du vrai argent, donc tu changes tes jetons et tu peux repartir avec 200 euros ou 0 ou 5 euros à n'importe quel moment de la partie.
Toi, tu es joueuse, est-ce que tu as joué aux machines à sous à Las Vegas? Est-ce que tu as mis des pièces dans le jackpot ou tu as fait de la roulette ou des choses comme ça, du blackjack?
Alors, j'ai fait un peu de roulette électronique parce que c'est beaucoup moins cher que de faire de la vraie roulette.
Enfin, ça fait moins peur aussi parce qu'il n'y a personne autour.
Non, parce qu'en vrai, les écrans sont, enfin, c'est assez prisé, donc voilà. Mais en fait, on peut avoir des mises à partir de 50 centimes de dollars, alors que 50 cents, alors que à la roulette, là où il y a un vrai croupier et tout, c'est genre 10 dollars, quoi. Donc, bon, ça fait pour une main, ça va durer 2 minutes, ça fait un peu cher. J'ai fait un petit peu de machine à sous, très peu, parce que tu sais pourquoi? J'étais hyper déçue parce qu'il n'y a plus de levier pour
appuyer sur un bouton maintenant.
Juste appuyer sur un bouton et du coup ça perd tout son charme. Mais l'avantage qu'il y a à Vegas, c'est que quand tu joues, tu ne payes pas tes boissons. Donc il vaut mieux jouer 50 centimes à la machine et puis prendre un mojito qui te coûte 1 dollar parce que tu vas quand même laisser un pourboire à la serveuse que d'aller au bar et de payer 15 dollars ton mojito. Donc le jeu, il m'a surtout servi aussi à pouvoir profiter des ambiances et puis voilà, à boire un coup, parce que même s'il y a la clim, il fait quand même très très chaud, quoi.
Parce que le but, c'est que les joueurs restent le plus longtemps possible sur les machines pour dépenser un maximum d'argent. C'est donc ça. Pareil, si vous jouez en France et que vous gagnez par exemple à la machine à sous, quand ils vous donnent votre prix, enfin maintenant c'est des tickets qu'on reçoit, ils viennent vous dire est-ce que vous voulez boire un petit verre, tout ce qui savent très bien que si vous buvez un verre, vous allez rester pour continuer.
Absolument.
À gagner, quoi. Merci beaucoup Aurore d'être venue ce matin dans la matinale pour nous parler de ce livre qui s'appelle Coup de Poker aux édition, auto-édition, qu'on peut retrouver donc sur Amazon pour le moment ou sinon sur ton site internet. Je crois que tu en as quelques-uns à disposition. Quand est-ce que sont les prochains moments où on peut te croiser en physique?
Alors en physique, vous pouvez me croiser presque tous les vendredis à l'Entre-deux-Mondes. Je ne présente pas spécialement mes livres, mais j'y suis. Et voilà, si vous avez envie de me rencontrer, ça sera avec plaisir. Sinon, je serai au championnat de France à Aix-en-Provence le dernier week-end du mois de mai, là, le 31 et 1er juin. Et en physique pour le moment, ça sera tout, parce que sinon après ça va être genre à l'automne et j'ai plus les dates en tête pour être tout à fait honnête.
Également, pour joindre l'utile à l'agréable, tu as sorti des goodies, puisque c'est des cartes à jouer avec les protagonistes du livre qui permettent également de mettre marque-page dans le bouquin.
C'est ça, je voulais faire des marque-pages un peu sympas et du coup au lieu de faire des marque-pages en long, j'ai fait des marque-pages cartes.
Et la prochaine émission d'Ultile Show?
La prochaine émission du Tilt Show, elle sera diffusée le week-end du 31 mai, 1er juin, le dimanche du coup 1er juin à 17h.
Merci également aux collégiens du collège de La Croix-Saint-Ouen qui s'appelle le collège Jules Verne d'être venu aujourd'hui pour cette émission, d'avoir été attentif même si on a enregistré cette émission cette matinale en journée. Merci à eux, bonne journée si vous allez au boulot, bon courage.
Merci
Brian. Et puis si vous avez pris cette émission en cours de route, retrouvez-la en podcast sur www.graphite.net. She knows 'cause I told them so. Oh, girl, I'm
respira, yo quiero gozar en California, porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien.